Bonjour Église, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vin. Je suis l'un des pasteurs ici à Willingdon. Et j'ai vu les parents venir prendre les photos des enfants pendant la chorale. C'est décourageant parce que j'aimerais que les gens me filmeraient aussi comme ça quand je prêche, mais vous ne le faites pas. Toutefois, comme toujours, je suis l'un des pasteurs ici et j'ai le privilège de prêcher la parole de Dieu alors que nous poursuivons notre série de Pâques intitulée « Le roi serviteur ». S'il vous plaît, gardez vos Bibles ouvertes comme Tim l'a fait d'une façon artistique. Ce passage de Matthieu 26, 30 à 56, c'était la lecture. Matthieu 26, 30 à 56. Alors, nous allons continuer à adorer à travers la prédication de la parole. Savez-vous, le mot « reddition » ne semble pas avoir de connotation positive, disons-le clairement. Il est plus davantage associé à la faiblesse. Quand nous pensons à ce mot, certains d'entre nous peuvent imaginer un drapeau blanc agité quand une armée se rend à une autre. Ou peut-être pour certains, un athlète qui concède la défaite. Ou peut-être une personne qui abandonne ses rêves. Quelle que soit l'image, ce n'est pas un mot facile pour la plupart, car il porte l'idée de renoncer au contrôle et de céder à quelque chose ou à quelqu'un au-delà de nous-mêmes. Mais ici, dans l'histoire de Jésus, dans Matthieu, ce passage n'est pas à propos d'une faiblesse, c'est à propos d'une force. On va voir comment Jésus va nous montrer comment se soumettre à la volonté des dieux malgré la trahison des frères et finalement une trahison d'un ami. J'ai trois points aujourd'hui dans le passage d'aujourd'hui. L'isolement de la reddition, la prière de la reddition, et trois, la victoire de la reddition. Laissez-moi répéter cela, l'isolement de la reddition, la prière de la reddition, la victoire de la reddition. Alors, la semaine passée, le pasteur Wayne nous a clairement montré pourquoi nous nous rassemblons en tant qu'Église, comme il a prêché à la dernière, au dernier moment. Qu'est-ce que ça fait pour nous comme Église? Ce qu'il a prêché à partir de Matthieu 26, 1 à 29, le pasteur Wayne nous a donné trois points suivants, pourquoi on se rassemble. Nous nous rassemblons pour révérer Jésus, nous nous rassemblons pour nous souvenir de la délivrance et nous nous rassemblons pour nous souvenir de notre Sauveur. Aujourd'hui, avril 13, 2025, nous adorons traditionnellement Jésus comme le jour que nous appelons le dimanche des rameaux. C'est pourquoi le pasteur Jerry a exactement décoré comme ceci, le dimanche des rameaux. Comme vous le savez, c'est dans Matthieu 21, 1 à 11, c'est l'histoire où Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, où les gens agitent des branches, des palmiers pour l'accueillir et l'adorer le roi. Qu'alors il arrive sur l'âne. Alors que ce moment arrive dans Matthieu 21, 1 à 20. Alors, le dimanche des rameaux, c'est dimanche. Mais quand on arrive à Matthieu 26, c'est jeudi. Alors, maintenant, nous passons au jeudi. Alors, allons à mon premier point, l'isolement de la reddition. Précédemment, Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. Puis a institué la Sainte Cène, la Sainte Cène ou l'Eucharistie, comme vous pouvez l'appeler. Mais la section se termine par le chant d'un hymne qu'ils chantent ensemble. Si vous vous demandez quel hymne ils ont chanté, ils auraient probablement chanté le psaume de Hallel, le terme hébreu pour louange. Ce psaume serait probablement les psaumes du psaume 113 à 118, parce que c'était les psaumes qui étaient associés à la Pâque. Alors, d'une certaine manière, les disciples ont partagé un moment spécial avec Jésus et ils clôturent ce moment en chantant un hymne Et, mais n'oublions pas que pendant que tout cela se passe, ce qui s'est passé avant, avant le chant, avant que le souper puisse finir, la sainte scène, Judas est parti au milieu de la dernière scène. Dans Jean 13, 30, il nous est dit, alors, dès qu'il y prit le morceau de pain, ça, c'est lui, c'est Judas, immédiatement, il sortit. Et il faisait encore nuit. Mais dans l'évangile de Jean, le moment avec Jésus, dans la il continue avec ce que nous appelons la chambre haute. Et c'est le dernier moment avec les disciples. Il encourage les disciples dans cette haute chambre. Aimez-vous les uns les autres, ne soyez pas troublés, restez connectés à moi. Et attendez-vous à des troubles, mais prenez courage. Et souvenez-vous que la promesse du Saint-Esprit, le Saint-Esprit promis, vous remplira de puissance. Et alors, le départ de Judas, la dernière scène, et les disciples sont dans un état de confusion, parce que beaucoup de choses se passent en même temps. Jésus et ses disciples, alors, sont sortis de la chambre haute, et on nous dit qu'au verset 30, qu'ils se dirigèrent vers le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers était simplement, ça serait simplement un flanc de la montagne, un jardin d'oliviers avec des oliviers alignés. Mais de quelle manière préparer cette scène? Le verset 30 présente deux choses. Les disciples sont dans un état de confusion. Mais maintenant, les choses vont devenir beaucoup plus chaotiques et plus de confusion. L'évangile de Matthieu nous dit qu'après après le chant, dans le verset 30, Jésus et les disciples allèrent au mont des Oliviers et spécifiquement à un endroit appelé Gethsemane, ce qui signifie pressoir à huile. C'est un détail magnifique parce que pour obtenir de l'huile d'une olive, il faut écraser. Il faut écraser l'olive. Ainsi, dans cette scène, nous verrons le début de l'écrasement de Jésus pour produire quelque chose de qui a de la valeur. À partir du verset 31, nous sommes maintenant à quelques heures de la crucifixion de Jésus. Jésus prophétise à ses disciples qu'ils trébucheront tous. Au verset 31, le terme trébucher est traduit du grec par le mot scandale ou chute. Quelque chose où quelqu'un fera trébucher les disciples, les rendra déloyaux, les rendra agiter le drapeau blanc, abandonner. Mais pas dans quelques jours, dans quelques mois, mais il parle que ça va se produire dans cette nuit même. Jésus dit à ses disciples qu'ils trébucheront tous et s'éloigneront à cause de lui. Mais pourquoi? Pourquoi les disciples sont avec Jésus depuis trois ans maintenant et ils ont eu toutes les occasions de le quitter pendant tout ce temps. Mais pourquoi exactement maintenant? Pourquoi maintenant? Alors, ça ne pouvait pas être à cause de sa souffrance physique, n'est-ce pas? À cause de la mort sur la croix, parce que ça s'approchait, mais parce que c'était quelque chose que Jésus subirait seul. Aucun d'autre n'en allait subir même. Ou peut-être y avait-il une crainte pour leur propre sécurité, puisque leur enseignant, leur rabbi, a prédit sa propre souffrance, peut-être que ses disciples finiraient par souffrir comme lui. Mais comme beaucoup aujourd'hui et pour les jours à venir, les disciples ont eu du mal à comprendre comment un serviteur souffrant pouvait apporter la guérison. Les disciples devaient se demander comment la souffrance de Jésus pouvait être le grand plan de Dieu pour Jésus, mais aussi pour eux. Si c'est le plan pour Jésus, alors les disciples pourraient finir par dire, « Jésus, si ceci est le plan de souffrir, tu es seul. » Cela peut être le plan de Dieu pour toi, Jésus, mais cela ne peut pas être le plan de Dieu pour nous. Judas est le premier à quitter Jésus. Alors peut-être est-il l'homme le plus intelligent dans la pièce. Peut-être a-t-il, même alors qu'il a physiquement fait cela, peut-être qu'il a amené les autres disciples à douter intérieurement. Peut-être voit-il ou sait-il ce qui attend Jésus et lui-même. Et Judas s'est dit, j'ai un meilleur plan que cela. Et il n'indique ni souffrance, ni reddition. Alors Jésus, alors que je m'en vais, tu es seul. Personnellement parlant, je ne écrirai pas l'histoire de Jésus de cette façon. Ce n'est pas ainsi que j'écrirai l'histoire de Jésus. Quand nous regardons le monde autour de nous, qui nous entoure, le monde nous façonne pour juger les leaders et ceux qui sont en autorité, sur base de quoi? Sur base des résultats en fonction des nombres, des finances et de la santé de leurs disciples. Si ce que nous devions prendre le même critère pour mesurer Jésus, ces nombres ne seraient pas bons. Et ses disciples, ses suiveurs, ils ont même l'air encore pire. Les serviteurs souffrant comme Jésus aujourd'hui, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne les regarderions pas, nous ne suivrions pas leur exemple. Nous dirions, Jésus, tu es seul. Nous préférions suivre quelqu'un qui semble être fort, qui puissant, riche, ou mieux encore, suivre quelqu'un qui nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Ce plan de la mort de Jésus et de l'abandon des disciples n'était pas une idée qui a surgi sur le moment, mais Jésus leur rappelle que cela était écrit dans les Écritures. Il y a environ 550 ans, lorsqu'il cite, nous le savons pourquoi, parce qu'il cite Zacharie 13, verset 17, quand il dit « Frappe le berger et les brebis seront dispersées. » Alors Jésus sera frappé à mort, selon Zacharie, frappé à mort, ça voudrait dire d'une manière unique. Et ses disciples, tous le régneront, tous individuellement à leur manière. Alors on va au verset 33. Le reniement de Pierre, maintenant, c'est le point central. Mais la question est celle-ci, pourquoi? Le reniement de Pierre se distingue non pas parce que les autres n'ont pas trébuché, nous savons qu'ils ont tous fait la même chose, parce qu'au verset 56, il est dit, mais parce qu'ils sont tous partis. Mais je pense que la raison pour laquelle, parce que le reniement de Pierre était personnel, c'était public et c'était douloureux. Non seulement cela, mais la passion et les promesses de Pierre étaient les plus prononcées. Vous voyez cela chez Pierre lorsque nous lisons le verset 33 où il est le premier à prendre la parole. Pierre déclare, et il déclare, même si tous trébuchent à cause de toi, moi je ne trébucherai jamais. Remarquez ce qu'il fait. Si vous remarquez ce qu'il fait, Pierre rabaisse tout le monde en les accusant de trébucher. S'il trébuche, moi, je ne le ferai pas. Il les trébuche, puis il se gonfle d'orgueil en disant, moi, jamais, je ne ferai jamais ce qu'ils font. Et il ne le fait pas en privé, il le fait devant eux tous, en public. Au cas où vous douteriez de la passion de Pierre, il insiste. Parce que quand vous lisez au verset 35, de la façon dont j'ai mentionné, au verset 35, Pierre se vante comme un coq qui je serai prêt à mourir pour Jésus. Il s'est artificiellement érigé en modèle de force et de grandeur. quand nous examinons attentivement les déclarations de Pierre, une réalité plus profonde que nous ignorons. Ce n'est pas, je pense que le fait que Pierre affirme ne jamais trébucher ni mourir pour Jésus, mais ce que nous manquons, c'est que c'est la prophétie que Jésus a faite au verset 31 et après au verset 34. Jésus fait comprendre à Pierre et aux autres disciples. Pierre est en train de dire, c'est ma parole contre ta parole. Et il est assez grand pour prendre que ma parole va vaincre ta parole. Jésus fait comprendre aux disciples que cela va arriver parce que c'est écrit dans les Écritures. Mais les disciples ne se préoccupent que d'eux-mêmes et rejettent les paroles de Jésus qui les concernent. Alors, c'était une opportunité pour les disciples de se soumettre à la volonté de Dieu et aussi d'y répondre à la volonté de Dieu. Voyez-vous, si vous êtes comme moi, alors, comme on dit au Canada ici, on a cette ligne, mettre de l'ordre dans sa vie. C'est l'image de canard qui passe avec tous ses enfants derrière. C'est cette idée qui veut dire de mettre de l'ordre dans sa vie. L'idée est d'organiser, de préparer, de tout contrôler avant d'agir. Mais encore, si j'avais su à l'avance que mon histoire impliquerait le rejet de mes amis le plus cher, le rejet de ceux que je suis venu sauver et que les religieux décideraient de ma vie et de ma mort, je ne me serais pas soumis à cette histoire. Je ne veux pas m'aligner sur ça. Jésus connaissait son histoire du début à la fin et s'y est soumis à cause de ce qu'elle accomplirait pour ceux qui continueraient à le suivre. Et pour cette raison, Jésus reste seul. Loué soit Jésus, car c'est son histoire à lui seul. Et c'est la même histoire que nous racontons depuis plus de 2000 ans. Et imaginez quoi, nous allons continuer de raconter cette histoire pendant les 2000 ans prochaines, l'histoire immuable de Jésus. Jésus, dans l'isolement, il s'est soumis, mais ce qu'il a accompli sur la croix, il continue par cette soumission d'amener beaucoup de nombreux fils et filles à la gloire. Alors, passons à mon deuxième point, la prière de la reddition. L'isolement de Jésus, je pense que ça s'approfondit encore quand on va dans le verset 36 et 46. Nous y verrons aussi dans cette section une force intérieure plus profonde et sa source, et la source de cette force. D'où tient-il cela? Voyez-vous, quand j'étais adolescent, mon père m'a amené dans son pays natal, même dans le quartier où il a grandi. Je l'admets aujourd'hui, avec joie aujourd'hui, que je suis un homme faible comparé à mon père. Dans son quartier d'enfance, où il a grandi, il n'y avait pas d'eau courante et les toilettes extérieures étaient un trou dans le sol. Mon père ne m'a jamais vraiment parlé de la pauvreté de son enfance. Peut-être embarrassé à propos de ça, mais une chose qu'il a dû me montrer pour que je le croie. Il a dû me montrer pour que je croie. Pourquoi est-ce que je partage cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, père de deux filles et sachant les petits sacrifices que j'ai déjà faits pour elles, je sais que le sacrifice de mon père prennent pour moi un sens plus profond que jamais. Voyez-vous, quand nous savons plus sur Dieu, le sacrifice de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je pense que notre amour peut encore pour eux peut grandir. Jésus savait cela de son Père. Malgré l'abandon de ses disciples, une trahison, un procès injuste et une mort sur la croix, il s'est tourné vers son Père dans la prière. Jésus et ses disciples arrivent à Gethsémané, mais ils n'amènent que Pierre, Jacques et Jean plus loin. Mais avant de quitter les huit autres, il leur ordonne, avant de quitter, prier. Alors qu'il quitte le 8 en amenant les trois disciples, il répète les mêmes instructions aux trois. Il dit la même chose. Il y a quelques verbes clés. Voyez-vous, il dit « asseyez-vous ici » et puis « veillez ». Le terme « veiller » signifiait probablement qu'il devait prier comme moi, comme lui. Copiez-moi. Soyez des disciples. Et après, ce qui est intéressant, c'est que cinq fois, le mot « prière » ou le mot « quelque chose d'équivalent » apparaît au verset 36, 39, 41, 42 et 44. Et je trouve cela frappant parce qu'au verset 30 à 35, nous avons les disciples qui font preuve de bravoure, qui disent « Regarde-nous, Jésus, nous préférons mourir que de régner. » Mais Jésus ne les condamne pas. Qu'est-ce qu'il fait à partir de verset 30 à 35? Ceci, il les guide plutôt vers une posture que ses disciples maîtrisent mal. Après l'exaltation, il les conduit à l'humilité de la prière. On doit se souvenir, pendant que cette scène se passe, on doit se souvenir de quelque chose qu'on ne voit pas. Pendant ces temps, Judas, ce que je veux dire, alors que Judas n'est pas inactif en ces moments. Jésus non plus n'était pas inactif en ces moments. Le verset 39 décrit la posture physique de Jésus dans la prière. C'est quoi? Il tomba le visage contre terre en priant. Le verset 40 et précise la durée de sa prière. À propos, une heure, chaque fois qu'il revient, il trouve ses disciples endormis. Une heure chaque fois. On suppose qu'il a prié une heure à chaque fois. La question alors ici est pour toi et pour moi, et pour ton groupe, ta cellule, ça serait, est-ce que c'était la pratique habituelle de Jésus? Par terre, le visage à terre, chaque fois et une heure. Et on peut voir un article en ligne qui est de BMC Public Health, qui s'appelle aussi Biomed Central. Heureusement que ce n'est pas une étude américaine, une menée, pas qu'on n'en ait pas besoin. Actuellement, c'est une étude menée au Canada. C'est une étude locale sur les temps d'écran des enfants et des jeunes. Les résultats ne doivent pas nous surprendre, mais l'article, c'est en train de montrer le manque d'activité physique, l'excès d'écran et le sommeil inadéquat. Ils ne dorment pas assez. Et comment cela menace la santé des jeunes. Et la conclusion de cette étude est dit, les jeunes vont mal. Ça dit même que cela s'empire. Le problème de santé mentale et la concentration deviennent des enjeux majeurs dans notre temps. Je déteste admettre ceci, mais c'est une pilule amère à avaler. Enfants, jeunes et adultes, et même des adultes, la prière est difficile pour la plupart. Moi, le premier. Vous savez, la vérité, je préfère agir par mes propres forces que prier. C'est plus facile. Et ajouter à cela la difficulté de se concentrer, de se concentrer dans la prière. Mais la difficulté va devenir pire pour la plupart d'entre nous, particulièrement pour les enfants, les jeunes et les adultes, jeunes adultes. Mais nous ne sommes pas sans espoir, nous ne sommes pas laissés seuls. Le Saint-Esprit nous fortifie. Et nous devons nous encourager mutuellement pour le faire, pour aimer, prier et faire toutes ces choses. Quand vous allez vous lisez la posture de Jésus dans le verset 39 à 42, la persévérance de Jésus, il prie deux fois et il dit, mon Père, verset 39 et verset 49, il dit, mon Père, cela indique cette profonde relation intime avec son Père. Et à l'un des moments les plus douloureux de sa vie, difficile, à quel point c'était dur. Luc 22, 44 le dit, qu'étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça décrit comment c'était un moment difficile. Regardez ce que Jésus fait, pas ce qu'il dit. Il ne dit pas à ses disciples, vous devez le faire. Il ne dit pas, vous devez vous efforcer à faire cela en tant que chrétien. Il n'a pas serré ses dents et dire, ceci aussi passera. Ne craignez pas. Ceci aussi passera, c'est ce qu'il dit. Et j'irai au meilleur endroit quand tout sera fini. Ne craignez rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il adore. Il prie. Au verset 39 et 42 varie légèrement, mais leur essence est identique. La coupe que Dieu lui donne à boire, qui fait allusion à Ésaïe 51 et Jérémie 25, ça symbolise la colère divine, colère divine contre le péché et contre les pécheurs. La coupe que Dieu va donner à Jésus, et Jésus prie la prière de Jésus et la prière de reddition. Il dit, que ta volonté soit faite, non la mienne. La prière de Jésus à Gethsemane est actuellement une prière de préparation, une préparation avant l'action. Et cela nous remémore Hébreux 5, 7 à 10, qui dit, « Durant sa vie terrestre, Jésus offrit des prières et des supplications avec grands cris et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé à cause de sa piété. Bien que fils, il a pris l'obéissance par ses souffrances et ainsi conduit à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, étant proclamé par Dieu souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. » Basiquement, c'est ce qu'il est en train de dire. Jésus, même après sa mort, reste aujourd'hui notre souverain sacrificateur. Notre intercesseur, notre avocat, il est assis à la droite de Dieu et continue à intercéder pour nous. Et passons à mon troisième et dernier point, la victoire de la reddition. Alors, enfants, je sais que certains d'entre vous, j'avais oublié pendant que j'écrivais ceci, mais je vais me souvenir de ça. Jeunes enfants, si vous voulez vous souvenir de quelque chose sur ce message, parce que vous êtes si fascinés par mon accent, souvenez-vous de cette histoire. Une chose que je veux vous demander, je n'ai jamais eu d'animal domestique dans ma vie. Mais la semaine dernière, notre famille a acheté deux hamsters pour mes deux enfants. Elles se cachent là quelque part. OK. Nous avons fait un arrangement, nous sommes mis d'accord sur quelque chose comme tous parents. Nous avons convenu si on achète, elle s'en occuperait entièrement, nettoyer la cage, les nourrir, je ne sais pas ce qu'ils font. Quoi qu'il en soit, ils ont promis avec ferveur que nous allons tout faire, l'entretien, les nourrir. Ils ont promis. Avec elles ont promis avec tout ce qu'elles ont. Est-ce que je crois à leurs promesses? Bien sûr que non. Je suis un parent et je sais mieux. Enfin, écoutez, l'achat de hamsters ne reposait pas sur leurs promesses, mais c'était basé sur mes promesses. Elles vont oublier, elles vont rejeter, elles vont renoncer, elles vont renier. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je partage cette histoire ici? Parce que c'est que Christ, la substitution de Christ pour nos, la substitution de Christ pour nos péchés repose sur ses promesses et sur lui-même, pas les nôtres. Et c'est tout. C'est sa victoire, pas la tienne. Voici une peinture, une œuvre créée en 1306 par Giotto, un Italien, pendant la Renaissance italienne. Elle dépeint une scène chaotique, comme celle de Matthieu 26, 47 à 56. Alors que nous lisons, oui, ce que nous avons lu ce matin, c'est au milieu du tumulte, deux figures centrales. Vous voyez que ça bouge. Et alors, au milieu, il semble être prendre une pause. Là, au milieu, au-delà du chaos, dans tous les chaos, il y a deux figures. Vous avez vous avez Jésus et Judas qui le trahit par un baiser. Remarquez ce qui se passe. Son baiser va vers les lèvres, pas sur la tête, pas sur le front, pas sur la joue. Ce qui était culturellement la meilleure compréhension d'un baiser. Mais l'auteur fait un baiser sur les lèvres parce que c'est le plus intime. Judas a détourné un geste culturellement, un geste culturel, un acte d'amitié, un acte de trahison. Dans ce chaos, il semble contrôler la situation. Alors, et puis il y a les autorités, les chefs, ils semblent aussi maîtriser les événements accompagnés d'une foule armée, parce qu'ils sont accompagnés d'une foule. Et ils semblent être encore en contrôle parce qu'ils ont une foule qui est armée d'épées et des bâtons. Ça leur donne un semblant de contrôle. Puis il y a Pierre. Il n'est pas dit dans ce passage, mais on sait le voir dans Jean, dans l'évangile de Jean, dans 18:10 exactement. Il croit également contrôler la situation. Spécialement quand il tire son épée et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre. Il semble être en contrôle, n'est-ce pas? Mais la vérité est celle-ci. La vérité, en réalité, aucun d'eux n'est en contrôle. Comment on le sait? Nous, on le sait comme Jésus l'a dit au verset 53, que personne d'autre n'a le contrôle. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus leur montre qu'il c'est lui qui a le contrôle. Il leur montre qu'il aurait pu appeler ce qui est l'équivalent de 72 000 anges pour combattre. Mais sa victoire ne viendrait pas d'une bataille physique, elle viendrait de sa reddition alors qu'il continue à se soumettre à la volonté du Père. Et nous pourrions nous dire, je n'agirai jamais envers Jésus, je ne le renierai jamais. Mais quand on regarde cette histoire avec toutes ces foules, les prêtres qui représentent la l'histoire, et puis il y a ces disciples qui, qu'on appelait le régime, le nouveau régime, et eux aussi ont rejeté l'ancien régime et le nouveau régime, ont tous rejeté Jésus. On jugerait facilement. Je pense que nous sommes pareils à tous, les anciens et le nouveau. On rejetterait Jésus aussi. Je pense que Pierre voulait désirer un évangile de victoire, mais sans la substitution de Jésus, sans la mort et la résurrection. Attention à ne pas imiter Pierre et les disciples. Souvenez-vous, ils ont commencé au verset 35, « Même si je dois mourir pour toi, mais on voit comment ils ont commencé cette arrogance, mais à la fin, ils finissent. Et comparé à Jésus, Jésus a commencé où? Pas si haut. Il a commencé par la soumission. Et quelle est la fin? Il finit par la force. Assez de force pour porter la colère de Dieu. La section, si on va au verset 26 à 56, c'est une fin triste, mais porteuse d'espoir. Il dit, « Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. » Puis, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Malgré leurs promesses enflammées, avec tout ce qu'ils avaient dit, malgré tout ce qu'ils ont dit au verset 35, nous ne fuirons jamais, il reste de l'espoir. Même Judas est resté isolé dans sa chute. Mais Pierre et les 10 autres disciples ont été restaurés, on le sait, parce qu'ils ont, soumis leur vie, ils ont rendu leur vie à Jésus. Mais Église, ceci n'est pas comment tu commences, mais c'est à propos de comment Jésus finit. Et il finit le travail en mourant sur la croix. Si vous allez un peu plus loin avec moi au verset 32 de Matthieu 26, il y a un détail important. Jésus a fait 3 prophéties. Et je suis intéressé au deuxième qui est au verset 32. Il dit, « Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est un détail magnifique. La Galilée, pourquoi il parle de Galilée? Particulièrement parce que c'était le premier lieu où il les avait rencontrés pour la première fois. Et ça va être l'endroit où je vais vous rencontrer en dernier lieu. Aussitôt, c'est le même mot utilisé dans Matthieu 4:20. Quand il dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Dans Matthieu 20, il est dit, pour être ressuscité, avant de ressusciter, il faut d'abord quoi? Il faut mourir. Jésus n'a pas donné à ses disciples un modèle à imiter, mais Jésus leur a donné sa vie à recevoir par lui. À travers Jésus, il serait uni à lui. À travers Jésus, ils seraient remplis du Saint-Esprit. À travers Jésus, ils vont être aimés du Père. Et à travers Jésus, ils trouveraient leur valeur. Et en revenant au verset 56, tout ceci pour accomplir les Écritures. Alors que nous faisons la conclusion, j'ai une question. Pourquoi le besoin d'accomplir les Écritures? Pourquoi te rendre à la trahison de Judas? Pourquoi abandonner, se soumettre à la, à, à, et toutes ces peines, toute cette honte et toute cette souffrance, vraiment, pour accomplir la volonté de ton Père, seulement pour obéir à ton Père. Mais tu es le Fils de Dieu, tu es la deuxième personne de la Trinité. Mais alors Jésus, je comprendais si tu voulais éviter toutes les peines et toutes les souffrances, j'aurais compris. Mais tu es sage, assez sage pour prendre une nouvelle voie pour nous sauver. Et tu ferais la même promesse, et je ferais mon mieux pour te suivre, j'essaierai. Mais merci Jésus, car tout dépend, ce n'est pas à propos de mes promesses, ça dépend de tes promesses. Tu as promis, tu es fidèle, et ta parole le dit. Si tu rends ta vie à Jésus, alors il promet, tu vas la gagner. Alors Saint-Esprit, aide ceux qui ne croient pas, pourrais-tu pour la première fois les rendre capables de croire que s'ils se soumettent, ils te soumettent leur vie, ils vont la regagner. Et tous ceux d'entre nous qui l'ont déjà fait, que par la puissance du Saint-Esprit, nous continuons à croire. Prions. Jésus, nous venons devant toi à cause de ta grande soumission, ta grande reddition. Combien merveilleux es-tu? Et qu'à ce moment difficile de la souffrance, tu n'as pas abandonné, tu as prié, tu t'es soumis même un peu plus au Père en criant vers lui. Pas ma volonté, mais ta volonté. Afin qu'il y ait d'amener beaucoup de fils et de filles à la gloire. Jésus, nous te louons à cause de la victoire de ta reddition, de ta soumission. Alors Jésus, pour ceux d'entre nous dans cette salle qui ne t'avons jamais, nous ne sommes jamais soumis à toi, Seigneur, ouvre les yeux qui ne voient pas. Que ce n'est pas en essayant par notre force. Être un disciple fidèle, tout dépend de tes promesses envers nous. Alors nous plaçons notre foi et ta confiance à ce que tu as fait. Et ceux d'entre nous qui te connaissent pour un long temps, que nous puissions approfondir notre amour et notre soumission, alors que nous puissions vivre la vie de soumission. En ton nom Jésus, nous prions. Amen. Alors, il y aura quelques questions de réflexion sur l'écran. Église, je veux vous rappeler, alors que ce moment de reddition, ce moment de soumission, pour venir devant pour prier, nous aurons des gens ici devant, et puis il y aura des gens aussi derrière, dans les entrées, vers les entrées. Ceux qui sont au-dessus, il y aura des gens aussi, si vous voyez de stations de prière, et certains d'entre vous qui sont dans la connexion, nous allons venir là-bas aussi pour prier, soumettons nos vies et prions. Et suivez les questions de réflexion aux écrans.